Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, le père Boris Bobrinsky, théologien orthodoxe de réputation internationale, pendant de nombreuses années professeur et doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, ainsi que recteur de la paroisse de la crypte Sainte-Trinité rue Daru à Paris, nous a quittés le 7 août dernier dans sa 96e année. En hommage à cette grande figure du monde orthodoxe, nous proposons aujourd'hui une nouvelle écoute d'une émission diffusée le 21 mai 2009, où le père Boris, qui fut aussi un prédicateur exceptionnel, analyse le sens de l'ascension, le mystère de cette fête selon une expression qui lui était chère, et l'inscrit dans l'ensemble de l'histoire du salut et de la foi chrétienne. Écoutons-le.
Eh bien, je dois dire que pour moi, ce thème de ce mystère de l'ascension a été un mystère extrêmement sensible qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie entière. Il faut dire que on ne peut pas isoler l'ascension parce que l'ascension signifie une montée. Montée de bas vers le haut. D'où du bas? De la terre. Pas seulement de la terre. Parce que toute l'œuvre du salut est une, à la fois tout d'abord une descente du ciel vers notre humanité pécheresse, vers notre misère. Et ensuite, le Seigneur prenant sur lui, assumant notre nature humaine, notre existence, nos faiblesses, il les prend, il les transfigure, il remonte avec nous d'ailleurs, il remonte de la terre au ciel. Alors je pense qu'il est très important de bien comprendre, de bien nous rappeler de ce double mouvement, mouvement de descente, d'abaissement, qu'on dit en théologie de kénose. Le Seigneur se vide de lui-même, il s'humilie, il prend la forme, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, il prend la forme du serviteur, c'est-à-dire devenant obéissant au Père jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Ainsi, nous avons tout d'abord cette descente. Et dans cette descente, on peut distinguer plusieurs étapes. Tout d'abord, Dieu se fait homme. Mais dans son humanité, il assume aussi nos faiblesses. Plus que cela, il prend sur lui nos péchés. Comme le dit saint Jean le Baptiste lors du baptême du Seigneur au Jourdain, « Voici l'agneau de Dieu qui prend sur lui le péché du monde ». Et Jésus prend sur lui tout cela, toute cette ignominie, toute cette haine, toute cette misère. Il la prend sur ses épaules jusqu'à en défaillir. Et c'est ainsi qu'il va, obéissant au Père, il continue à aller, ayant pris le péché, s'étant identifié à lui, lui qui est sans péché, eh bien, il va jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Et il descend, il est mis au tombeau. Et plus loin encore que cela, il descend jusqu'aux confins de la terre, jusqu'aux enfers. Et là, nous avons le grand mystère où la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres, comme le dit saint Jean l'évangéliste, ne peuvent pas l'embrasser, ne peuvent pas l'étouffer. Et par conséquent, c'est au fond des ténèbres que s'accomplit véritablement le retournement, ce miracle absolu, n'est-ce pas, où la lumière vint, la lumière est victorieuse, et désormais, comme nous pouvons le dire, l'enfer a des portes, mais ces portes ont été brisées, et les verrous de l'enfer ont été cassés par la venue du Seigneur. Et alors s'opère la remontée. S'opère la remontée du fond de l'enfer jusqu'à la terre, et de la terre à travers les passages, à travers les étapes progressives des cieux, comme le pensait l'Antiquité, jusqu'au trône céleste du Père. Ainsi nous avons, n'est-ce pas, cette descente absolue, cette descente dans laquelle Dieu assume et s'incarne, assume, est uni à notre nature humaine, et alors il la transforme, il la sanctifie, il la déifie, et il nous élève vers le Père. Et là, nous en arrivons, bien sûr, à l'ascension. Et cette ascension, c'est ce que le Seigneur a dit, que nous lisons dans l'Évangile, « Il vaut mieux pour vous, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et ainsi, nous voyons que cette ascension du Christ, elle crée dans le monde entier et dans l'Église, comme je dirais, une sorte de force d'attraction, une sorte de centre de gravitation nouvelle. Nous étions nous-mêmes dépendants de la gravitation terrestre. Actuellement, il y a une autre gravitation céleste qui fait que nous sommes entraînés, nous sommes happés, nous sommes portés ainsi de la terre au ciel et nous sommes ainsi en marche à la suite du Seigneur. Parce que le Seigneur monte vers le Père, mais il ne monte pas seul. J'attirerai tous les hommes à moi. Et cette attraction se fait justement par la puissance de l'Esprit-Saint. Je pense que là, nous devons bien comprendre toute l'importance de l'ascension. Bien sûr, dans cette ascension, le Seigneur monte tout d'abord seul, mais il entraîne avec lui, et désormais, son ascension, nous y participons dans la mémoire, dans l'anamnèse, dans le souvenir de l'Église, dans la vie sacramentelle de l'Église, parce que dans l'Esprit-Saint, l'Église fait mémoire de tous les lieux dont le Christ a été. Le Christ est devenu petit enfant, nous faisons mémoire de cela à la nativité à Noël. Le Christ a reçu le baptême au Jourdain, nous faisons mémoire de cela. Le Christ est entré à Jérusalem, nous en faisons mémoire. Le Christ a été crucifié sur la croix et a été mis au tombeau, nous en faisons mémoire. Dans les fêtes, bien sûr, dans la Semaine Sainte et la Pâque, mais aussi dans la Divine Liturgie, où, comme l'Église le dit, commémorons tout ce qui a été fait pour nous, la croix, le tombeau, la résurrection au ciel, la résurrection d'entre les morts, l'élévation, l'ascension au ciel, le ciel à ta droite. Donc nous faisons mémoire de tout cela à chaque liturgie. Par conséquent, cela signifie que nous participons véritablement dans l'Église au mystère du Christ qui nous entraîne et nous sommes enveloppés dans cette marche céleste.
Merci beaucoup. Il faudrait peut-être situer également cette histoire que donnent les actes dans l'historique. Jésus est ressuscité et à un moment donné, il conduit les disciples.
Alors ce qu'il y a, c'est que nous avons bien sûr une succession d'étapes ou de périodes. Par exemple, nous savons, d'après l'évangile de Luc et surtout d'après le livre des Actes, écrit par le même évangéliste et apôtre Luc, que pendant 40 jours, Jésus apparaissait à ses disciples. Et ensuite, pendant 10 jours, c'est encore une nouvelle étape très mystérieuse où Jésus n'est plus là. Jésus les a quittés en montant vers le ciel et ils en sont les témoins, mais l'Esprit Saint n'est pas encore donné. Tout d'abord, ces 40 jours, je pense, ils nous sont bien sûr révélés par les évangélistes. Jésus apparaît, que ce soit au lac de Galilée, lors de la pêche miraculeuse du lac de Tibériade, ou bien que ce soit dans le Cénacle, selon l'évangéliste Jean. Et là, il y a un moment très mystérieux où le premier dimanche de la résurrection, Jésus apparaît, Thomas n'est pas là. Jésus leur communique déjà l'Esprit Saint. L'Esprit Saint de la Pentecôte est déjà communiqué à la résurrection, il n'y a pas de raison d'attendre plus tard. Et ensuite, 8 jours plus tard, Thomas étant là, Jésus apparaît de nouveau et il dit, étends tes mains, mets tes doigts dans les plaies de mes mains, de mes pieds et dans la plaie de mon côté, etc. Eh bien, nous voyons que le ressuscité porte encore dans son corps les traces de ses souffrances. Les traces de ses souffrances, nous pouvons dire que monter au ciel, élevé à la droite du Père dans la gloire, l'œuvre de la passion, des souffrances du Christ demeurera toujours à la fois dans la mémoire de Dieu et dans la mémoire de l'Église. Ceci est déjà un moment important. Mais bien sûr, Jésus prépare ses disciples à l'accomplissement de la promesse. Parce qu'il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais, dit Jésus dans le discours sacerdotal de l'évangile de Jean avant sa passion, je supplierai le Père et il vous enverra l'Esprit qui demeurera avec vous à jamais. Il vous enverra l'Esprit qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Par conséquent, cette montée, ces 10 jours ensuite qui sépare l'ascension de la Pentecôte, constitue véritablement un moment unique, symbolique aussi, et fondateur, où Jésus est élevé déjà à la droite du Père. Il le supplie filialement, à la fois filialement et comme grand prêtre. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, Jésus comme le grand prêtre des biens éternels. Eh bien, il nous supplie, et c'est Jésus seul qui accomplit cette supplication céleste que nous appelons dans la liturgie, cette épiclèse, où il demande que le Père envoie l'Esprit-Saint. Et alors l'Esprit-Saint descend en flot abondant sur l'Église le jour de la Pentecôte.
Cet événement donc de l'Ascension, est-il un événement qui clôt un cycle ou c'est un événement qui introduit une attente et une nouvelle étape?
Les deux, bien sûr. La question, la manière même de vous poser la question montre que la réponse est évidente. C'est à la fois un moment culminant, n'est-ce pas? Parce que il faut dire que résurrection et ascension constituent une réalité unique d'élévation, de passage de la mort à la vie et de la terre au ciel, n'est-ce pas? Les deux vont ensemble. Par conséquent, l'ascension montre que le Père a accueilli et a agréé l'œuvre sacrificielle du Christ. Mais le sacrifice du Christ, comme grand prêtre, ne se termine pas sur la croix, ne se termine pas à la résurrection. Il doit encore continuer au ciel. Et c'est là qu'il est important de montrer que nous parlons aussi de la liturgie céleste. de la liturgie céleste du Christ auprès du Père, et toutes nos liturgies terrestres s'amalgament et convergent et sont enveloppées dans cette unique liturgie du Christ en face du Père. On parle aussi de la liturgie de l'agneau, n'est-ce pas ? Voilà. Par conséquent, nous voyons combien cette ascension, à la fois elle clôt l'œuvre terrestre du Christ, mais elle inaugure l'œuvre céleste. L'œuvre céleste qui fonde toute l'existence de l'Église. L'existence de l'Église, elle est bien sûr fondée sur, à la fois sur le mémorial de l'œuvre terrestre du Christ, de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, mais l'œuvre, la divine liturgie, elle nous unifie déjà, elle nous rend contemporains non seulement du Christ terrestre, mais aussi du Christ céleste.
Je voudrais revenir un instant sur cette période de 40 jours, puisque ce chiffre de 40 jours est resté comme un chiffre très important dans la vie de l'Église tout court. Par exemple, quand quelqu'un meurt, c'est 40 jours après que l'on fait la première grande prière pour sa mémoire. Et là aussi, on considère qu'il y a un cycle qui est clos et puis peut-être un nouveau qui est ouvert. Enfin, ce chiffre de 40, le Christ est resté 40 jours dans le désert, 40 depuis l'Ancien Testament, et évidemment cette symbolique de 40 jours entre la résurrection et l'ascension. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est la veille de l'ascension que nous célébrons la clôture de Pâques. Les deux événements sont tout à fait liés. Alors, dans la vie sacramentelle, je dirais quotidienne de l'Église, dans quelle mesure cet événement de l'ascension est vécu ?
Je pense que cet événement de l'ascension, il est vécu bien sûr comme une certaine clôture, comme vous le dites, une clôture du temps pascal. Mais pourtant, je dirais que la véritable clôture de Pâques, c'est la Pentecôte. Parce que c'est l'Esprit Saint qui était promis et qui peut être donné depuis que le Christ est ressuscité, il nous est donné à la Pentecôte. Par conséquent, ce n'est qu'au IVe siècle que la fête de l'Ascension a été instaurée, a été inaugurée, a été fondée, tout d'abord à Jérusalem, puis ensuite à Byzance, à Constantinople et dans le monde chrétien tout entier. Mais avant cela, il y avait simplement la cinquantaine pascale. Par conséquent, mais bien sûr tout entière dans l'Esprit Saint. Voilà. Par conséquent, ces 40 jours sont importants. Bien sûr, l'Église a voulu particulièrement souligner l'importance de l'ascension. Elle l'a vécu particulièrement lorsque ont été possibles les pèlerinages à Jérusalem dès le IVe siècle. Et à partir de là, cette fête est devenue une des fêtes fondamentales qu'il est important de vivre. Mais alors, il y a 40 et il y a 10. 40 jours sont des temps de préparation, mais temps de consolation aussi, car le Christ, il est là, il apparaît à ses disciples, il leur parle, il les enseigne. Certains doutent d'ailleurs, il leur donne, n'est-ce pas, son dernier viatique, ses derniers commandements, mais il est là et pas là, il est là et à la fois déjà absent, il s'élève déjà. Très curieusement, la chronologie de l'évangile de Luc est différente de celle de l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, dès le premier jour de la résurrection, Jésus dit à Marie, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Voici que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et plus tard, Jésus ordonne à Thomas de le toucher. Donc comme il y a une sorte d'anticipation dans l'évangile de Jean qui vit d'une manière, on peut dire, synthétique et globale tous les mystères ensemble, à la fois la résurrection, l'ascension, voici que je monte vers mon Père et votre Père, et le don de l'Esprit, recevez l'Esprit Saint, dit-il le jour de sa résurrection aux apôtres. Donc vous voyez, nous sommes à la fois dans la vie de l'Église, nous dissocions les fêtes, dimanche, la résurrection, 40 jours d'attente, ascension, Pentecôte, mais en réalité, tout cela est vécu, et doit être vécu intérieurement, spirituellement, et même liturgiquement d'une manière globale, unifiée.
Il y a une autre question qui se pose lorsqu'on lit ce récit de l'Ascension. Les apôtres, évidemment, sont liés au Christ d'amitié. Il y a une paternité spirituelle qui s'est établie, bien sûr. Donc ces liens tout à fait humains sont cassés un tout petit peu à ce moment-là. Le Christ les quitte. Et en même temps, on sait que c'est avec joie qu'ils reviennent de ce moment-là. Alors comment est-il possible d'associer les deux ?
C'est une très bonne question qui a été souvent soulignée par les prédicateurs, en particulier dans notre réflexion, parce que en réalité, l'ascension du Christ n'est pas un départ, n'est pas un départ, et plus que cela, dans la promesse de l'Esprit-Saint, ils avaient la certitude que, plus que jamais, Jésus serait présent avec eux dans l'Esprit-Saint, non plus d'une manière simplement terrestre et matérielle et physique, mais d'une manière spirituelle, en s'unifiant avec lui dans l'Esprit-Saint. Car l'Esprit-Saint, c'est lui, la véritable puissance, la force d'unité et de présence. C'est dans l'Esprit-Saint que nous sommes un avec le Christ sur la croix et au tombeau. C'est dans l'Esprit-Saint que nous participons à ces manifestations du ressuscité. C'est dans l'Esprit-Saint que nous sommes les témoins de son ascension. C'est dans l'Esprit-Saint que l'évangéliste Marc, qui est le seul à le dire, ajoute, et voilà, il s'éleva au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Bien sûr, Marc ne pouvait pas être témoin de Jésus s'asseyant dans son ascension à la droite de Dieu, mais pourtant, dans l'Esprit-Saint, il en avait la vision, il en avait la certitude. Par conséquent, l'Esprit-Saint nous donne véritablement cette vision, n'est-ce pas, des mystères du Christ, qui nous permet de nous associer à lui.
Donc, cette joie de la séparation, c'est une joie et c'est une séparation, ce qui est a priori un peu paradoxal, mais qui existe. Comment peut-on l'interpréter dans la vie de tout chrétien, puisque ces événements sont des événements historiques d'un moment donné, mais ils se répètent dans la vie de tout chrétien, ou en tout cas ils doivent l'être?
Je pense que tout d'abord, dans notre vie, nous avons cette expérience de la résurrection du Christ dans notre vie. Nous avons ces semences de résurrection qui sont implantées, qui germent dans notre propre cœur, dans notre vie. Nous avons, disons, notre cœur est finalement un espace qui peu à peu se remplit de la présence du Christ par la puissance de l'Esprit-Saint, et cela nous donne une immense joie et aussi une certitude que le Christ est véritablement ressuscité et que notre chemin est un chemin de résurrection avec lui, non seulement dans un avenir lointain, mais dès maintenant, dès aujourd'hui. Par conséquent, cette résurrection est une réalité vécue actuellement, et chaque fois que nous participons, nous célébrons le Christ, nous célébrons le ressuscité, et cela détermine notre propre existence. C'est pour ça que nous pouvons parler de joie.
Donc, dans la vie du chrétien d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut revivre les étapes? Bon, il y a la résurrection, comme vous avez dit, il y a ce temps de séparation qui est un temps de joie, puis il y a la venue de l'Esprit, 10 jours plus tard. Est-ce qu'un chrétien d'aujourd'hui peut vraiment revivre cela dans cette chronologie, dans cet ordre?
Nous le vivons à la fois dans cette chronologie, mais aussi dans un désordre. Dans un désordre parce que l'Esprit-Saint, il est à la fois celui qui est le fruit et le signe que la prière du Christ est exaucée. Mais c'est dans l'Esprit-Saint nous-mêmes que nous pouvons déjà vivre tout le mystère du Christ et par conséquent nous réjouir et savoir que notre existence elle-même, elle est déjà transformée, elle est radieuse, elle est paisible et que nous pouvons dans l'Esprit-Saint vivre nous aussi la victoire du Christ contre les forces du mal, contre les forces sataniques, contre l'enfer. Parce que l'enfer, ce n'est pas une image simplement lointaine, l'enfer est une réalité qui trouve son écho dans nos propres cœurs, dans les cœurs humains. Par conséquent, dans la mesure où notre cœur se pacifie peu à peu et que nous arrivons à nous libérer des forces néfastes qui gîtent en nous et qui œuvrent dans le noir, dans nos propres ténèbres, eh bien alors, peu à peu, nos ténèbres sont illuminées. Alors vient la joie, vient la paix, vient la douceur, vient la grâce de l'Esprit-Saint. Et ça, nous le vivons. Nous le vivons à la fois d'une manière individuelle, mais aussi d'une manière fraternelle, en étant devenant capable d'entrevoir le visage du Christ dans le prochain, dans le pauvre, dans le souffrant. Et cela, c'est également par l'Esprit-Saint que nous sommes capables désormais de le faire. Dans la mesure où nous sommes nous-mêmes réconciliés avec le Seigneur, et où il y a les barrières de nos barricades, nous nous barricadons contre le Seigneur, contre toute la venue de Dieu en nous. Lorsque tout cela s'élimine, eh bien, toutes nos barricades contre nos prochains également s'éliminent. Nous sommes capables de les découvrir, de les aimer, d'avoir pitié, d'avoir compassion, de les secourir et de les aimer pour eux-mêmes.
Je voudrais pour terminer revenir sur quelque chose, une référence que vous faisiez tout à l'heure à la Divine Liturgie, à l'anaphore, ce dépassement du temps ou cette manière de résumer le temps. Vous avez dit que dans l'anamnèse, bon, on se souvient de tous les événements passés, mais on se souvient également des événements futurs, du siège à la droite du Père. Alors, comment peut-on se souvenir de quelque chose qui n'est pas encore arrivé ?
eh bien, la notion de souvenir, d'anamnèse dans la liturgie, et je dirais même dans la conscience biblique, est une notion qui ne dépend pas seulement du temps passé. Le souvenir est une sorte de présence. Nous devenons présents aux événements du salut. Ces événements du salut deviennent présents à nous-mêmes. Par conséquent, que ce soit la croix, nous accompagnons le Christ dans sa marche vers le Golgotha. Nous sommes avec les femmes mirefort au tombeau. Et nous découvrons que ce tombeau est vide. Et dans la liturgie, dans la célébration pascale, nous vivons cela comme une réalité vécue vraiment profondément. Mais en même temps, l'avenir également, le futur, la vie future, la vie céleste, cela déjà, nous en avons déjà un écho. Nous en avons un écho et disons que cela correspond, ce n'est plus simplement une promesse lointaine, mais c'est une évidence. C'est une évidence que cela nous est donné et que cela nous est promis et que nous en avons déjà l'avant-goût. On peut dire que nous avons dans l'Église, dans la liturgie, dans les sacrements, dans les célébrations des fêtes, il y a une inauguration du mystère céleste qui nous est donné dès maintenant.
Père Boris, merci beaucoup. Alors peut-être donner une indication à nos auditeurs si on veut vraiment retrouver les fondements scripturaires de cette fête de l'Ascension, que doit-on lire ?
Je pense qu'il y a les récits de l'Ascension dans les évangiles de Marc et de Luc, et du livre des Actes des Apôtres, le premier chapitre évidemment, mais aussi ne pas négliger le discours de Jésus avant sa passion dans l'évangile de Jean, où vous avez la notion, quand le Fils de l'homme sera élevé de terre, n'est-ce pas ? Cette élévation de terre, cette ascension, quand je serai levé de terre, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, n'est-ce pas ? Il faut ruminer un peu, redire toutes ces promesses où Jésus nous enseigne que son départ est un départ qui est à la fois une promesse absolue, une promesse de vie et de vie éternelle.
C'était l'Ascension, une rediffusion du 21 mai 2009 en hommage au Père Boris Poplinskoï. Je termine en rappelant deux livres majeurs du Père Boris, « Le mystère de la Trinité » et « Le mystère de l'Église », parus tous deux aux éditions du Cerf. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Nos remerciements à Sylvie Migaud et Yves Lehor pour l'émission de 2009, ainsi qu'à Anne Pérez et Clément Daté pour la rediffusion d'aujourd'hui. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.